Chapitre 8. Il avait toujours affolé des fleurs, mais cette passion qui, pendant ses séjours à Jutigny, s'était tout d'abord étendue à la fleur, sans distinction ni d'espèce ni de genre, avait fini par s'épurer, par se préciser sur une seule caste. Depuis longtemps déjà, il méprisait la vulgaire plante qui s'épanouit sur les éventaires des marchés parisiens, dans des pots mouillés, sous de vertes bannes ou sous de rougeâtres parasols. En même temps que ses goûts littéraires, que ses préoccupations d'art s'étaient affinées, ne s'attachant plus qu'aux œuvres triées à l'étamine, distillées par des cerveaux tourmentés et subtils, en même temps aussi que sa lassitude des idées répandues s'était affirmée, son affection pour les fleurs s'était dégagée de tout résidu, de toute lie, s'était clarifié, en quelque sorte rectifié. Il assimilait volontiers le magasin de l'horticulteur à un microcosme où étaient représentées toutes les catégories de la société. Les fleurs pauvres et canailles, les fleurs de bouge, qui ne sont dans leur vrai milieu que lorsqu'elles reposent sur des rebords de mansarde, les racines tassées dans des boîtes au lait et de vieilles terrines, la giroflée par exemple, les fleurs prétentieuses, convenues, bêtes, dont la place est seulement dans des cache-pots de porcelaine peints par des jeunes filles, telles que la rose. Enfin, les fleurs de haute lignée, telles que les orchidées, délicates et charmantes, palpitantes et frileuses. Les fleurs exotiques, exilées à Paris, au chaud dans des palais de verre. Les princesses du règne végétal vivant à l'écart, n'ayant plus rien de commun avec les plantes de la rue et les fleurs bourgeoises. En somme, il ne laissait pas que d'éprouver un certain intérêt, une certaine pitié pour les fleurs populacières exténuées par les haleines des égouts et des plombs dans les quartiers pauvres. Il exécrait en revanche les bouquets en accord avec les saisons crème et or des maisons neuves. Il réservait enfin pour l'entière joie de ses yeux les plantes distinguées, rares, venues de loin, entretenues avec des soins rusés, sous de faux équateurs, produits par les souffles dosés des poètes. Mais ce choix définitivement posé sur la fleur de serre s'était lui-même modifié sous l'influence de ses idées générales, de ses opinions maintenant arrêtées sur toute chose. Autrefois, à Paris, son penchant naturel vers l'artifice l'avait conduit à délaisser la véritable fleur pour son image fidèlement exécutée grâce au miracle des caoutchoucs et des fils, des percalines et des taffetas, des papiers et des velours. Il possédait ainsi une merveilleuse collection de plantes des tropiques, ouvrées par les doigts de profonds artistes, suivant la nature pas à pas, la créant à nouveau, prenant la fleur dès sa naissance, la menant à maturité, la simulant jusqu'à son déclin. Arrivant à noter les nuances les plus infinies, les traits les plus fugitifs de son réveil ou de son repos, observant la tenue de ses pétales, retroussés par le vent ou fripés par la pluie, jetant sur ses corolles matineuses des gouttes de rosée en gomme, la façonnant en pleine floraison alors que les branches se courbent sous le poids de la sève ou élançant sa tige sèche, sa cupule racornie quand les calices se dépouillent et quand les feuilles tombent. Cet art admirable l'avait longtemps séduit, mais il rêvait maintenant à la combinaison d'une autre flore. Après les fleurs factices, Saint-Jean les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses. Il dirigea ses pensées dans ce sens. Il n'eut point à chercher longtemps, à aller loin, puisque sa maison était située au beau milieu du pays des grands horticulteurs. Il s'en fut tout bonnement visiter les serres de l'avenue de Châtillon et de la vallée d'Aunay, revint éreinté, la bourse vide, émerveillé des folies de végétation qu'il avait vues, ne pensant plus qu'aux espèces qu'il avait acquises, hanté sans trêve par des souvenirs de corbeilles magnifiques et bizarres. Deux jours après, les voitures arrivèrent. Sa liste à la main, des esseintes appelaient, vérifiaient ses emplettes une à une. Les jardiniers descendirent de leur carriole une collection de caladium qui appuyait sur des tiges turgides et velues d'énormes feuilles de la forme d'un cœur, tout en conservant entre eux un air de parenté. Aucun ne se répétait. Il y en avait d'extraordinaires, des rosâtres, tels que le virginal qui semblait découpé dans de la toile vernie, dans du taffetas gommé d'Angleterre, de tout blanc, tels que l'albane, qui paraissait taillé dans la plèvre transparente d'un bœuf, dans la vessie diaphane d'un porc. Quelques-uns, surtout le Madame Mam, imitaient le zinc, parodiaient des morceaux de métal estampés, teints en vert empereur, salis par des gouttes de peinture à l'huile, par des taches de minium et de céruse. Ceci, comme le Bosphore, donnait l'illusion d'un calicot empesé, caillouté de cramoisi et de vert myrte. Cela, comme l'aurore boréale, étalait une feuille couleur de viande crue, striée de côtes pourpres, de fibrilles violacées, une feuille tuméfiée, suant le vin bleu et le sang. Avec l'albane, l'aurore présentait les deux notes extrêmes du tempérament, l'apoplexie et la chlorose de cette plante. Les jardiniers apportèrent encore de nouvelles variétés. Elles affectaient cette fois une apparence de peau factice sillonnée de fausses veines, et la plupart, comme rongées par des syphilis et des lèpres, tendaient des chairs livides, marbrées de roséoles, damassées de dartres. D'autres avaient le ton rose vif des cicatrices qui se ferment ou la teinte brune des croûtes qui se forment. D'autres étaient bouillonnés par des cautères, soulevés par des brûlures. D'autres encore montraient des épidermes poilus, creusés par des ulcères et repoussés par des chancres. Quelques-unes enfin paraissaient couvertes de pansements, plaquées d'axonges noirs mercuriels, d'onguents verts de belladone, piqué de grains de poussière par les micas jaunes de la poudre d'iodoforme. Réunies entre elles, ces fleurs éclatèrent devant des esceintes plus monstrueuses que lorsqu'ils les avaient surprises, confondues avec d'autres, ainsi que dans un hôpital, parmi les salles vitrées des serres. « Sapristi ! » fit-il enthousiasmé. Une nouvelle plante d'un modèle similaire à celui des caladiums, la Losacea metallica, l'exalta encore. Celle-là était enduite d'une couche de vert bronze sur laquelle glissaient des reflets d'argent. Elle était le chef-d'œuvre du factice. On eût dit d'un morceau de tuyau de poêle découpé en fer de pique par un fumiste. Les hommes débarquèrent ensuite des touffes de feuilles, losangers, vert bouteille. Au milieu s'élevait une baguette au bout de laquelle tremblotait un grand as de cœur, aussi vernissé qu'un piment. Comme pour narguer tous les aspects connus des plantes, du milieu de cet as d'un vermillon intense jaillissait une queue charnue, cotonneuse, blanche et jaune, droite chez les unes, tire-bouchonnée, tout en haut du cœur, de même qu'une queue de cochon chez les autres. C'était l'anthurium, une aroïdée récemment importée de Colombie en France. Elle faisait partie d'un lot de cette famille, à laquelle appartenait aussi un amorphophallus, une plante de Cochinchine, aux feuilles taillées en truelles à poisson, aux longues tiges noires, couturées de balafres, pareilles à des membres endommagés de nègres. Des esseintes exultaient. On descendait des voitures une nouvelle fournée de monstres. Des échinopsis sortant de compresses en ouate des fleurs d'une rose de moignon ignoble. Des nidulariums ouvrant dans des lames de sabre des fondements écorchés et béants. Des tilantia lindenia tirant des grattoirs ébréchés, couleur de bout de vin. Des cypripédiums aux contours compliqués, incohérents, imaginés par un inventeur en démence. Il ressemblait à un sabot, à un vide-poche, au-dessus duquel se retrousserait une langue humaine au filet tendu, tel qu'on en voit dessiner sur les planches des ouvrages traitant des affections de la gorge et de la bouche. Deux petites ailettes rouges de jujube, qui paraissaient empruntées à un moulin d'enfant, complétaient ce baroque assemblage d'un dessous de langue couleur de lie et d'ardoise et d'une pochette lustrée dont la doublure suintait une visqueuse colle. Il ne pouvait détacher ses yeux de cette invraisemblable orchidée issue de l'Inde. Les jardiniers, que ses lenteurs ennuyaient, se mirent à annoncer eux-mêmes à haute voix les étiquettes piquées dans les pots qu'ils apportaient. Des essaintes regardaient, effarées, écoutant sonner les noms rébarbatifs des palandes vertes. L'encéphalarios horridus, un gigantesque artichaut de fer peint en rouille, tel qu'on en met aux portes des châteaux afin d'empêcher les escalades. Le cocos micania, une sorte de palmier, dentelé et grêle, entouré de toutes parts par de hautes feuilles semblables à des pagaies et à des rames. Le zamia lemmani, un immense ananas, un prodigieux pin de Chester, planté dans de la terre de bruyère et hérissé à son sommet de javelots barbelés et de flèches sauvages. Le cibotium spectabile, enchérissant sur ses congénères par la folie de sa structure, jetant un défi au rêve en élançant dans un feuillage palmé une énorme queue d'orang-outan, une queue velue et brune au bout contourné en crosse d'évêque. Mais il les contemplait à peine, attendait avec impatience la série des plantes qui le séduisaient entre toutes, les goules végétales, les plantes carnivores, le gobe-mouche des Antilles aux limbes pelucheux, sécrétant un liquide digestif muni d'épines courtes, se repliant les unes sur les autres, formant une grille au-dessus de l'insecte qui l'emprisonne, les droséras des tourbières, garnies de grains granduleux, les saracénas, les céphalotus, ouvrant de forts races cornets, capables de digérer, d'absorber de véritables viandes. Enfin le népenthès, dont la fantaisie dépasse les limites connues des excentriques formes. Il ne put se lasser de tourner et de retourner entre ses mains le pot où s'agitait cette extravagance de la flore. Elle imitait le caoutchouc dont elle avait la feuille allongée, d'un vert métallique et sombre, mais du bout de cette feuille pendait une ficelle verte, descendait un cordon ombilical supportant une urne verdâtre, jaspée de violet, une espèce de pipe allemande en porcelaine, un nid d'oiseau singulier qui se balançait tranquille, montant à un intérieur tapissé de poils. « Celle-là va loin !» murmura des essaintes. Il dut s'arracher à son allégresse, car les jardiniers, pressés de partir, vidaient le fond de leurs charrettes, plaçaient pêle-mêle des bégonias tubéreux et des crotons noirs tachetés de rouge de Saturne en tôle. Alors il s'aperçut qu'un nom restait encore sur sa liste, le Cattleya de la Nouvelle-Grenade. On lui désigna une clochette ailée d'un lilas effacé, d'un mauve presque éteint. Il s'approcha, mit son nez dessus et recula brusquement. Elle exhalait une odeur de sapin verni, de boîte à jouets, évoquait les horreurs d'un jour de l'an. Il pensa qu'il ferait bien de se défier d'elle, regretta presque d'avoir admis, parmi les plantes inodores qu'il possédait, cette orchidée qui fleurait les plus désagréables des souvenirs. Une fois seul, il regarda cette marée de végétaux qui déferlait dans son vestibule. Ils se mêlaient les uns aux autres, croisaient leurs épées, leurs crisses, leurs fers de lance, dessinaient un faisceau d'armes vertes au-dessus duquel flottaient, ainsi que des falons barbares, des fleurs au ton aveuglant et dur. L'air de la pièce se raréfiait, et bientôt, dans l'obscurité d'une encoignure près du parquet, une lumière rampa blanche et douce. Il l'atteignit et s'aperçut que c'étaient des rhizomorphes qui jetaient en respirant ces lueurs de veilleuse. Ces plantes sont tout de même stupéfiantes, se dit-il. Puis il se recula et en couvrit d'un coup d'œil l'amas. Son but était atteint. Aucune ne semblait réelle. L'étoffe, le papier, la porcelaine, le métal paraissaient avoir été prêtés par l'homme à la nature pour lui permettre de créer ces monstres. Quand elle n'avait pu imiter l'œuvre humaine, elle avait été réduite à recopier les membranes intérieures des animaux, à emprunter les vivastènes de leur chair en pourriture, les magnifiques hideurs de leur gangrène. Tout n'est que syphilis, songea les essaintes, l'œil attiré, rivé sur les horribles figures et tigrures des caladiums que caressait un rayon de jour. Et il eut la brusque vision d'une humanité sans cesse travaillée par le virus des anciens âges. Depuis le commencement du monde, de pères en fils, toutes les créatures se transmettaient l'inusable héritage, l'éternelle maladie qui ravageait les ancêtres de l'homme, qui a creusé jusqu'aux os maintenant exhumés des vieux fossiles. Elle avait couru sans jamais s'épuiser à travers les siècles. Aujourd'hui encore, elle sévissait, se dérobant en de sournoises souffrances, dissimulant sous les symptômes des migraines et des bronchites, des vapeurs et des gouttes. De temps à autre, elle grimpait à la surface, s'attaquant de préférence aux gens mal soignés, mal nourris, éclatant en pièces d'or, mettant par ironie une parure de sequins d'almée sur le front des pauvres diables, leur gravant, pour comble de misère, sur l'épiderme, l'image de l'argent et du bien-être. Et la voilà qui reparaissait en sa splendeur première, sur les feuillages colorés des plantes. « Il est vrai, » poursuivit des essaintes, revenant au point de départ de son raisonnement, « il est vrai que la plupart du temps, la nature est à elle seule incapable de procréer des espèces aussi malsaines et aussi perverses. Elle fournit la matière première, le germe et le sol, la matrice nourricière et les éléments de la plante que l'homme élève, modèle, peint, sculpte ensuite à sa guise. » Si entêtée, si confuse, si bornée qu'elle soit, elle s'est enfin soumise, et son maître est parvenu à changer par des réactions chimiques les substances de la terre, à user de combinaisons longuement mûries, de croisements lentement apprêtés, à se servir de savantes boutures, de méthodiques greffes, et il lui fait maintenant pousser les fleurs de couleurs différentes sur la même branche, invente pour elle de nouveaux tons, modifie à son gré la forme séculaire de ses plantes, débrutit les blocs, termine les ébauches, les marques de son étampe, leur imprime son cachet d'art. « Il n'y a pas à dire, » fit-il, résumant ses réflexions. « L'homme peut, en quelques années, amener une sélection que la paresseuse nature ne peut jamais produire qu'après des siècles. Décidément, par le temps qui court, les horticulteurs sont les seuls et les vrais artistes. » Il était un peu las et il étouffait dans cette atmosphère de plantes enfermées. Les courses qu'il avait effectuées depuis quelques jours l'avaient rompu. Le passage entre le grand air et la tiédeur du logis, entre l'immobilité d'une vie recluse et le mouvement d'une existence libérée, avait été trop brusque. Alors il quitta son vestibule et fut s'étendre sur son lit. Mais, absorbé par un sujet unique, comme monté par un ressort, l'esprit, bien qu'endormi, continua de dévider sa chaîne, et bientôt, il roula dans les sombres folies d'un cauchemar. Il se trouvait au milieu d'une allée en plein bois, au crépuscule. il marchait à côté d'une femme qu'il n'avait jamais ni connue ni vue. Elle était efflanquée, avait des cheveux filasses, une face de bouledogue, des points de sang sur les joues, des dents de travers lancées en avant sous un nez camus. Elle portait un tablier blanc de bonne, un long fichu écartelé en buffleterie sur la poitrine, des demi-bottes de soldat prussien, un bonnet noir orné de ruches et garni d'un chou. Elle avait l'air d'une foraine, l'apparence d'une saltimbanque de foire. Il se demanda quelle était cette femme qu'il sentait entrer, implantée depuis longtemps déjà, dans son intimité et dans sa vie. Il cherchait en vain son origine, son nom, son métier, sa raison d'être. Aucun souvenir ne lui revenait de cette liaison inexplicable et pourtant certaine. Il scrutait encore sa mémoire, lorsque soudain une étrange figure parut devant eux, à cheval, trotta pendant une minute et se retourna sur sa selle. Alors, son sang ne fit qu'un tour, et il resta cloué par l'horreur sur place. Cette figure ambiguë, sans sexe, était verte, et elle ouvrait dans des paupières violettes des yeux d'un bleu clair et froid, terrible. Des boutons entouraient sa bouche. Des bras extraordinairement maigres, des bras de squelette, nus jusqu'au coude, sortaient de manches en haillons, tremblaient de fièvre, et les cuisses décharnées grelottaient dans des bottes à chaudron trop larges. L'affreux regard s'attachait à des esceintes, le pénétrait, le glaçait jusqu'au moelle. Plus affolée encore, la femme bouledogue se serra contre lui et hurla à la mort, la tête renversée sur son cou roide. Et aussitôt, il comprit le sens de l'épouvantable vision. Il avait devant les yeux l'image de la grande vérole. Talonné par la peur hors de lui, il enfila un sentier de traverse, gagna à toutes jambes un pavillon qui se dressait parmi de faux ébéniers à gauche, et là il se laissa tomber sur une chaise dans un couloir. Après quelques instants, alors qu'il commençait à reprendre haleine, des sanglots lui avaient fait lever la tête. La femme bouledogue était devant lui, et, lamentable et grotesque, elle pleurait à chaudes larmes, disant qu'elle avait perdu ses dents pendant la fuite, tirant de la poche de son tablier de bonne des pipes en terre, les cassant et s'enfonçant des morceaux de tuyaux blancs dans les trous de ses gencives. Mais elle était absurde, se disaient des enceintes. Jamais ces tuyaux ne pourront tenir. Et en effet, tous coulaient de la mâchoire les uns après les autres. À ce moment, le galop d'un cheval s'approcha. Une effroyable terreur poigna des esceintes. Ses jambes se dérobèrent, le galop se précipitait. Le désespoir le releva comme d'un coup de fouet. Il se jeta sur la femme qui piétinait maintenant les fourneaux des pipes, la supplia de se taire, de ne pas les dénoncer par un bruit de ses bottes. Elle se débattait. Il l'entraîna au fond du corridor, l'étranglant pour l'empêcher de crier. Il aperçut tout à coup une porte d'estaminet à persiennes peintes en verre, sans loquet, la poussa, prit son élan, et s'arrêta. Devant lui, au milieu d'une vaste clairière, d'immenses et blancs pierrots faisaient des sauts de lapin dans des rayons de lune. Des larmes de découragement lui montèrent aux yeux. Jamais, non, jamais, il ne pourrait franchir le seuil de la porte. Je serais écrasé, pensait-il. Et comme pour justifier ses craintes, la série des pierrots immenses se multipliait. Leur culbute emplissait maintenant tout l'horizon, tout le ciel, qu'ils cognaient alternativement avec leurs pieds et avec leurs têtes. Alors les pas du cheval s'arrêtèrent. Il était là, derrière une lucarne ronde, dans le couloir. Plus mort que vif, des esseintes se retourna, vit par l'œil de bœuf des oreilles droites, des dents jaunes, des naseaux soufflant deux jets de vapeur qui puaient le phénol. Il s'affaissa, renonçant à la lutte, à la fuite. Il ferma les yeux pour ne pas apercevoir l'affreux regard de la syphilis qui posait sur lui au travers du mur, qu'il croisait quand même sous ses paupières closes, qu'il sentait glisser sur son échine moite, sur son corps, dont les poils se hérissaient dans des mares de sueur froide. Il s'attendait à tout, espérait même pour en finir le coup de grâce. Un siècle, qui dura sans doute une minute, s'écoula. Il rouvrit en frissonnant les yeux. Tout s'était évanoui, sans transition, ainsi que par un changement à vue, par un truc de décor. Un paysage minéral atroce fuyait au loin, un paysage blafard, désert, raviné, mort. Une lumière éclairait ce site désolé, une lumière tranquille, blanche, rappelant les lueurs du phosphore dissous dans l'huile. Sur le sol, quelque chose remua, qui devint une femme très pâle, nue, les jambes moulées dans des bas de soie vert. Il la contempla curieusement. Semblables à des crins crépelés par des fers trop chauds, ses cheveux frisaient en se cassant du bout. Des urnes de népenthèse pendaient à ses oreilles. Des tons de veau cuit brillaient dans ses narines entr'ouvertes. Les yeux pâmés, elle appela tout bas. Il n'eut pas le temps de répondre, car déjà la femme changeait. Des couleurs flamboyantes passaient dans ses prunelles. Ses lèvres se teignaient du rouge furieux des anthuriums. Les boutons de ses seins éclataient, vernis tels que deux gousses de piment rouge. Une soudaine intuition lui vint. « C'est la fleur !» se dit-il. Et la manie résonnante persista dans le cauchemar, dériva de même que pendant la journée de la végétation sur le virus. Alors il observa l'effrayante irritation des seins et de la bouche, découvrit sur la peau du corps des macules de bistre et de cuivre, recula, égaré, mais l'œil de la femme le fascinait, et il avançait lentement, essayant de s'enfoncer les talons dans la terre pour ne pas marcher, se laissant choir, se relevant quand même pour aller vers elle. Il la touchait presque, lorsque de noirs amorphophallus jaillirent de toutes parts, s'élancèrent vers ce ventre qui se soulevait et s'abaissait comme une mer. Il les avait écartés, repoussés, éprouvant un dégoût sans borne, à voir grouiller entre ses doigts ses tiges tièdes et fermes. Puis subitement, les odieuses plantes avaient disparu et deux bras cherchaient à l'enlacer. Une épouvantable angoisse lui fit sonner le cœur à grands coups, car les yeux, les affreux yeux de la femme, étaient devenus d'un bleu clair et froid, terrible. Il fit un effort surhumain pour se dégager de ses étreintes, mais d'un geste irrésistible, elle le retint, le saisit, et hagard, il vit s'épanouir, sous les cuisses à l'air, le farouche nidularium qui bâillait en saignant dans des lames de sabre. Oh, il frôlait avec son corps la blessure hideuse de cette plante. Il se sentit mourir. S'éveilla dans un sursaut, suffoqué, glacé, fou de peur, soupirant. « Ah, ce n'est, Dieu merci, qu'un rêve !» Chapitre 9. Ses cauchemars se renouvelèrent. Il craignit de s'endormir. Il resta, étendu sur son lit, des heures entières, tantôt dans de persistantes insomnies et de fiévreuses agitations, tantôt dans d'abominables rêves qui rompaient les sursauts d'hommes perdant pied, dégringolant du haut en bas d'un escalier, dévalant sans pouvoir se retenir au fond d'un gouffre. La névrose engourdie, durant quelques jours, reprenait le dessus, se révélait plus véhémente et plus têtue sous de nouvelles formes. Maintenant, les couvertures le gênaient. Il étouffait sous les draps et il avait des fourmillements par tout le corps, des cuissons de sang, des piqûres de puces le long des jambes, et à ce symptôme se joignirent bientôt une douleur sourde dans les maxillaires et la sensation qu'un étau lui comprimait les tempes. Ses inquiétudes s'accrurent malheureusement, les moyens de dompter l'inexorable maladie manquèrent. Il avait sans succès tenté d'installer des appareils hydrothérapiques dans son cabinet de travail. L'impossibilité de faire monter l'eau à la hauteur où sa maison était perchée, la difficulté même de se procurer de l'eau en quantité suffisante dans un village où les fontaines ne fonctionnent parcimonieusement qu'à certaines heures, l'arrêtèrent. Ne pouvant être sabré par des jets de lance qui, plaqués, écrasés sur les anneaux de la colonne vertébrale, étaient seuls assez puissants pour mater l'insomnie et ramener le calme, il fut réduit aux courtes aspersions dans sa baignoire ou dans son tub, aux simples effusions froides, suivies d'énergiques frictions pratiquées à l'aide du gant de crin par son domestique. Mais ces simili-douches n'enrayaient nullement la marche de la névrose. Tout au plus éprouvait-il un soulagement de quelques heures, chèrement payé du reste par le retour des accès qui revenaient à la charge plus violents et plus vifs. Son ennui devint sans borne. La joie de posséder de mirobolantes floraisons était tarie. Il était déjà blasé sur leur contexture et sur leurs nuances. Puis, malgré les soins dont il les entoura, la plupart de ces plantes dépérirent. Il les fit enlever de ses pièces et, arrivé à un état d'excitabilité extrême, il s'irrita de ne plus les voir, l'œil blessé par le vide des places qu'elles occupaient. Pour se distraire et tuer les interminables heures, il recourut à ses cartons d'estampes et rangea ses Goya. Les premiers états de certaines planches des Caprices, des épreuves reconnaissables à leur ton rougeâtre, jadis achetées dans les ventes à prix d'or, le déridèrent, et il s'abîma en elles, suivant les fantaisies du peintre, épris de ces scènes vertigineuses, de ces sorcières chevauchant des chats, de ces femmes s'efforçant d'arracher les dents d'un pendu, de ces bandits, de ces succubes, de ces démons et de ces nains. Puis il parcourut toutes les zones séries de ces eaux fortes et de ces aquatintes, ces proverbes d'une horreur si macabre, ces sujets de guerre d'une rage si féroce, sa planche du garrot, enfin, dont il choyait une merveilleuse épreuve d'essai, imprimé sur papier épais, non collé, au visible pontuseau traversant la pâte. La verve sauvage, le talent âpre et perdu de Goya le captait. Mais l'universelle admiration que ses œuvres avaient conquise le détournait néanmoins un peu, et il avait renoncé depuis des années à les encadrer, de peur qu'en les mettant en évidence, le premier imbécile venu ne jugea nécessaire de lâcher les âneries et de s'extasier sur un mode tout appris devant elle. Il en était de même de ses Rembrandts qu'il examinait de temps à autre à la dérobée. Et en effet, si le plus bel air du monde devient vulgaire, insupportable, dès que le public le fredonne, dès que les orgues s'en emparent, l'œuvre d'art, qui ne demeure pas indifférente aux faux artistes, qui n'est point contesté par les sots, qui ne se contente pas de susciter l'enthousiasme de quelques-uns, devient elle aussi, par cela même, pour les initiés, polluée, banale, presque repoussante. Cette promiscuité dans l'admiration était d'ailleurs l'un des plus grands chagrins de sa vie. D'incompréhensible succès lui avait à jamais gâté des tableaux et des livres jadis chers. Devant l'approbation des suffrages, il finissait par leur découvrir d'imperceptibles tares, et il les rejetait, se demandant si son flair ne s'épointait pas, ne se dupait point. Il referma ses cartons, et une fois de plus, il tomba désorienté dans le spleen. Afin de changer le cours de ses idées, il essaya des lectures émollientes, tenta, en vue de se réfrigérer le cerveau, des solanées de l'art, lut ses livres, si charmants pour les convalescents et les mal à l'aise, que des œuvres plus tétaniques ou plus riches en phosphate fatigueraient, les romans de Dickens. Mais ces volumes produisirent un effet contraire à celui qu'il attendait. Ces chastes amoureux, ces héroïnes protestantes, vêtues jusqu'au cou, s'aimaient parmi les étoiles, se bornaient à baisser les yeux, à rougir, à pleurer de bonheur, en se serrant les mains. Aussitôt, cette exagération de pureté le lança dans un excès opposé en vertu de la loi des contrastes. Il sauta d'un extrême à l'autre, se rappela des scènes vibrantes et corsées, songea aux pratiques humaines des couples, aux baisers mélangés, aux baisers colombins, ainsi que les désigne la pudeur ecclésiastique quand il pénètre entre les lèvres. Il interrompit sa lecture, rumina loin de la bègue l'Angleterre et sur les peccadilles libertines, sur les salaces apprêts que l'Église désapprouve. Une commotion le frappa. L'anaphrodisie de sa cervelle et de son corps, qu'il avait cru définitive, se dissipa. La solitude agitée.